France Culture.
France Culture, salle des archives, les animaux de la ferme. Chapitre 3, la vache invisible. Résumons. Dans son livre « La ferme des animaux » publié en 1945, l'écrivain anglais George Orwell raconte la révolution russe et l'accaparement du pouvoir par une nouvelle caste dirigeante. Sous couvert de permettre au peuple de se diriger lui-même, une nouvelle clique s'est en réalité contentée de remplacer l'ancienne et d'asservir les animaux de la ferme. Orwell a dépeint chacun des protagonistes sous les traits de diverses bêtes. Le cheval incarne le bon peuple travailleur. Staline est figuré sous les traits d'un cochon. Les poules représentent les petits paysans dépossédés de leur récolte. Tout cela, nous l'avons vu au cours des premiers épisodes. Mais il y a une bizarrerie dans la distribution des rôles par Orwell. Il a en effet omis un animal en particulier. Un animal qui est pourtant central dans l'imaginaire de la ferme, à savoir la vache et les bovins en général. Pourquoi ? C'est ce que nous allons tenter de voir maintenant.
Les animaux de la ferme. Une série proposée par Mathieu Garrigou-Lagrange, réalisée par Delphine Lemaire. Attachée de production, Lily Cornaer.
Quand je dis qu'il n'y a pas de vache dans les animaux de la ferme, ça n'est pas tout à fait exact. Dans les premières pages du livre, le personnage de Sage l'Ancien fait en effet un discours qui les mentionne. Sage l'Ancien, c'est le cochon philosophe, celui qui annonce la révolution à venir au sein de la ferme. Il est en quelque sorte un avatar de Karl Marx et des penseurs du communisme. Et à un moment, il s'adresse aux vaches de l'assistance en leur posant une question purement rhétorique.
Vous, les vaches là, devant moi, combien de centaines d'hectolitres de lait n'avez-vous pas produit l'année dernière ? Et qu'est-il advenu de ce lait qui vous aurait permis d'élever vos petits, de leur donner force et vigueur ?
Alors évidemment, chacun sait bien que c'est le fermier, c'est-à-dire le tsar, qui a pris le lait des vaches et qui l'a vendu. Tout cela pour dire que quand Orwell mentionne les vaches, il s'intéresse en réalité plutôt à leur lait. C'est-à-dire qu'il ne parle pas vraiment des animaux en eux-mêmes, mais de leur production, de ce lait que les cochons, une fois arrivés au pouvoir, vont s'empresser de subtiliser, reproduisant en cela exactement les prédations de l'ancien régime.
Napoléon se planta devant les seaux et s'écria « Ne vous en faites pas pour le lait. On va s'en occuper. »
Autrement dit, dans la fable, la vache ne vaut pas par elle-même. Pourquoi ? Eh bien, sans doute parce qu'elle n'apparaît pas comme un animal doté de volonté propre. Elle est la bête apathique, autant que sympathique, mais elle n'a pas l'élégance du cheval et semble se désintéresser de tout. Elle n'est pas non plus comme le mouton qui suit toutes les dernières tendances de la mode et intègre immédiatement ce qu'il convient de dire et de penser. En fait, Orwell semble être passé à côté de la vache, qui aurait pu représenter le bon peuple de la ferme, tout simplement parce qu'elle ne réagit pas assez. Elle est un personnage trop passif. Et pourtant, dans les archives, la star du monde rural, c'est bien elle.
Veuillez écouter Paysans de France, une émission présentée par Raymond Cherrier.
Lors d'un récent déplacement, Roger Lamy, traversant les monts d'Aubrac, en a profité pour y effectuer une rapide enquête sur la vie de ceux qui s'accrochent encore dans ces régions très souvent déshéritées. En premier témoignage, voici les documents qu'il a recueillis sur le versant aveyronnais de l'Aubrac, au Buron de la Matte, si sur la commune de La Guiole.
Ici, le Buron de la Matte basse, à 1200 mètres d'altitude. Le Buron blotti sur une de ces montagnes des pentes d'Aubrac, blotti à ras de la montagne sous son toit de lave, sous son toit de lave très lourde. Ce Buron où l'on fabrique le La Guiole, nous sommes ici en effet à quelques kilomètres de La Guiole. Vous entendez en ce moment les clochettes des veaux de l'exploitation de Monsieur Chériguès. Et seulement les clochettes des veaux, je vous signale, car cette particularité curieuse existe sur les montagnes de l'Aubrac. Lorsque le propriétaire est en deuil, on ne met pas de cloche aux vaches de l'exploitation, on met seulement des clochettes aux jeunes veaux. Je vais maintenant me diriger vers la porte du Buron, où nous attend précisément Monsieur Chériguès, qui est, je crois, le propriétaire du bureau. C'est à vous ce bureau, oui, M. Chériguès.
Oui, monsieur.
Monsieur Chériguès nous attend bien campé sur le seuil de son usine à la Guiole, en veste de velours et en béret, je ne dis pas basque, mais en béret couramment porté par les Auvergnats de la région. Monsieur Chériguès, votre exploitation n'est pas ici. Et selon le système d'élevage dont nous a parlé Monsieur Gaubert, et vous avez une ferme en bas, dans la vallée.
Oui, à côté de la Guiole.
Oui, à côté de la Guiole. Et ici, on monte seulement pour la fabrication de la Guiole.
Oui. Nous montons le 25 mai.
Oui.
Une date fixe, et nous descendons le 13 octobre.
Dites-moi, on m'avait murmuré qu'une cérémonie particulière précédait le départ des bêtes dans la montagne. Je ne sais pas si ça se fait encore.
Ça se fait encore, oui, mais quand
localement.
Localement.
Alors, elle consiste en quoi?
Elle consiste à mettre beaucoup de clochettes aux vaches et aux veaux, et même des drapeaux.
Des drapeaux, on ne met pas de fanfare?
Non, non. Et puis ça encourage les vaches pour
entraîner. Bon, ça les fait marcher à part doublée.
Oui, oui.
Archives septembre 1955. Michel Pastoureau, vous êtes historien spécialiste du Moyen-Âge, mais aussi des couleurs, des symboles et des animaux. Sans entrer dans la tête de George Orwell, quelle symbolique de la vache pourrait expliquer, selon vous, qu'il ait préféré le cheval plutôt que les bovins pour représenter le bon peuple dans sa fable « La ferme des animaux » ?
Je pense qu'il faut d'abord rappeler qu'il est britannique et pas français. Donc dans le paysage rural d'Outre-Manche, on voit beaucoup moins de bovins que chez nous. Ça peut être une explication. La campagne, pour nous évidemment, au XXe siècle, c'est la vache, c'est le bœuf, c'est le veau. Ça n'est pas le cas ni en Angleterre ni en Écosse. Donc ça peut expliquer cette différence géographique au départ, économique. Et donc il a un peu oublié la vache. Cela dit, les absences sont aussi des documents, donc il faut en effet s'interroger pourquoi sur cette absence. Et dans mon travail d'historien, je reconnais que les documents d'archives, même pour des périodes bien plus anciennes, sont fort discrets sur les bovins, alors qu'ils ne le sont pas, ni sur les chevaux, ni sur les cochons, ni même sur les moutons. Les bovins, probablement parce qu'ils appartiennent au cours ordinaire des choses, disparaissent un peu des documents. L'historien a toujours du mal avec le cours ordinaire des choses, y compris pour les époques les plus récentes. Tout ce qui est exceptionnel, circonstanciel, est beaucoup mieux documenté. La vache, elle fait partie du quotidien, donc on n'en parle pas beaucoup.
Donc le mouton est plus exceptionnel que la vache, d'une certaine manière?
Oui, en tout cas des documents économiques, parce que le mouton fournit de la laine, fournit du lait, fournit de la viande, fournit beaucoup de produits. La vache, elle fournit pas beaucoup de produits pendant très longtemps. Le lait qu'on boit en Europe, c'est essentiellement du lait de brebis, parfois du lait de chèvre. Ça n'est vraiment qu'à partir de la fin du XVIIIe siècle que le lait de la vache devient plus consommé que le lait de la brebis. Donc c'est une histoire relativement courte à l'échelle de l'historien. En fait, la vache, c'est l'animal qui travaille. Elle tire, elle pousse, elle tire la charrue, mais elle tire aussi des chariots, des charrois, des charrettes. Elle passe, comme le bœuf, là où le cheval ne passe pas, même là où l'âne ne passe pas. Donc jusqu'au XIXe siècle, on l'utilise beaucoup comme moyen de transport.
Est-ce que vous ne diriez pas que la vache représente les vaincus ? Qu'elle est par essence, l'animal vaincu, celui qui passe après tous les autres.
Oui, c'est l'animal surtout placide, qui n'a pas d'idée par lui-même, qui est d'une discrétion totale. Il y a une phrase terrible de Kandinsky à propos de la couleur verte, qu'il n'aime pas, qui n'exprime rien, selon lui, dans son livre du spirituel dans l'art, et il compare la couleur verte à une grosse vache, qui n'exprime rien, qui est incapable du moindre sentiment. C'est très méchant pour la couleur verte et méchant pour la vache.
Savez-vous si la vache est un animal obéissant par nature ?
Jeune enfant puis adolescent, j'ai fréquenté des vaches parce que la maison de campagne de mes parents était entourée de deux fermes et donc de temps en temps le fermier me demandait de ramener à l'étable pour la traite les vaches qui paissaient dans les prés. Je faisais ça avec plaisir et donc j'en ai caressé, j'en ai chevauché. Le fermier du haut avait 5 vaches, chacune avait un nom propre. En général, qui renvoyait à la couleur de la robe. Il y avait Roussette, il y avait Rosette, il y avait Blanchette. Mais ce sont des animaux d'une part très sympathique, relativement affectueux. Je me souviens que ces vaches aimaient bien qu'on les gratte sur le front, et obéissant. D'ailleurs, les jours où je ne les ramenais pas à l'étable, elles revenaient toutes seules, il n'y avait même pas besoin de les accompagner.
Mais voici ici votre étable, n'est-ce pas?
Oui, c'est l'étable et vous voyez, la traite commence.
On traite les vaches à cette heure-ci?
On traite les vaches à cette heure-ci, oui. On les traite deux fois par jour, le matin à 5h30 du matin et l'après-midi à 5h30, le soir à 5h30.
Est-ce que vos jeunes gens savent traire les vaches tous maintenant?
Ah non, certainement
aucun?
Pas. Non, aucun.
Aucun? C'est pas une bonne chose à apprendre? Mais vous savez, moi je vais vous dire, je crois que c'est une chose très utile de savoir, parce que j'ai vu pendant la guerre, moi, les convois de réfugiés qui étaient précédés quelquefois par des troupeaux. Oui. Et j'ai vu des vaches qui meuglaient pendant des nuits et des journées entières. C'était lamentable de voir ça. Et parmi les soldats, il n'y avait pas un seul qui savait traire les vaches.
Oui, mais c'est très spécial. C'est un travail très délicat. Et suivant qu'il est fait plus ou moins bien, on obtient plus ou moins de lait.
Ah, alors vous n'osez peut-être pas confier encore à des mains inexpertes le pis de vos vaches.
Certainement pas.
Dites que madame s'en acquitte à merveille. C'est une vieille paysanne, non?
Mais oui, elle a toujours fait ça, oui, d'ici.
Ça, c'est une archive de 1941 de Radio Paris, la station dirigée par les Allemands durant l'occupation. L'émission met en valeur cette France qui travaille la terre, la France traditionnelle qui sait bien comment on traite une vache, pas comme ces soldats décadents de l'armée française qui ont perdu non seulement la guerre, mais aussi jusqu'au geste qui pourrait les nourrir, le geste qui fait jaillir le lait. Michel Pastoureau, est-ce que vous diriez que la vache, c'est aussi un symbole rassurant de tradition, voire de traditionnalisme, ce qui pourrait expliquer qu'elle soit comme ça valorisée sur les ondes de Radio Paris pendant la guerre?
Oui, bien sûr, c'est la France rurale, c'est la France traditionnelle, c'est la France du travail en quelque sorte, mais du travail à la campagne. Et en effet, la vache fournit du lait. Moi-même, j'ai essayé de traire quand j'étais adolescent. Rien n'est sorti, si je puis dire.
Ah, donc c'est pas si simple.
C'est pas si simple, la traite manuelle. Ça m'a d'ailleurs donné, quand j'étais plus grand, l'occasion de rire aux larmes devant un dessin de Philippe Géluc dans un de ses albums « Le chat ». Où il explique, enfin il raconte, le chat se gratte la tête et dit quand le jour où l'homme a découvert que la vache donnait du lait, mais que cherchait-il exactement ce jour-là? C'est assez vertigineux.
En tous les cas, c'est un animal qu'on ne peut pas séparer de la ruralité. Quand on pense à la campagne, on pense immédiatement à la vache, Michel Pastoureau.
Si on est français, si on est suisse, oui, ça c'est vrai. Mais si on est italien ou danois ou norvégien, c'est un peu différent. Hein. Donc il faut voir peut-être un peu plus large au-delà des frontières de notre propre pays. Mais c'est vrai que chez nous, depuis la fin du XVIIIe siècle, la vache, c'est l'emblème de la campagne, c'est l'attribut de la campagne. C'est moins le cas précédemment, si je puis dire. On voit moins de vaches que de cochons ou de moutons.
La vache est l'un des premiers animaux de la ferme que l'on apprend à reconnaître aux enfants. C'est la plupart du temps une Holstein, celle qui est blanche avec des taches noires. Il faut dire que cette race est très répandue en France puisque une vache sur trois est une Holstein chez nous. 60% même si l'on ne prend en compte que celles qui sont élevées pour produire du lait. Cette espèce-là en particulier nous est très sympathique. Pour cette raison, les enfants dessinent des vaches noires et blanches et jouent avec des vaches miniatures. Cela n'avait pas échappé au producteur radio et ingénieur du son Yann Parentoen quand il avait conçu son émission sur les jouets intitulée « Un chariot pour la grande ours ».
Ça fait peur. Ça fait peur, hein. Une vache. C'est une vache. J'aime les vaches. Parce que ça fait pas du bruit. Je préfère les vaches parce que les voitures de course, ça fait du bruit. Je joue avec la vache.
Alors Michel Pastoureau, c'est une émission qui a été diffusée le jour de Noël 1967. Et c'est vrai que les bovins correspondent bien à l'imagerie de Noël.
Oui, bien sûr, avec la présence et du bœuf et de l'âne dans la crèche. Les évangiles canoniques n'en parlent pas. Hein. C'est vraiment les évangiles apocryphes qui, les premiers, parlent de cette présence. Probablement les images, d'ailleurs, ont-elles précédé les textes. Et dans les images, comme l'évangile canonique dit que Jésus est né dans une étable, dans les images, il faut montrer ce qu'est l'étable. Et le bœuf et l'âne servent d'attribut iconographique. Je pense que c'est comme ça que ça s'est passé. D'abord les images avec le bœuf et l'âne, et ensuite des textes qui commentent. Et ça pèse d'un poids très lourd parce que au Moyen-Âge, on débat beaucoup pour savoir si Jésus est venu sur Terre pour sauver aussi les animaux ou non. Il y a des débats passionnés, et l'argument de ceux qui pensent que le Christ est venu sauver aussi les animaux, c'est que Jésus est né dans une étable. C'est donc qu'il est vraiment venu sur Terre pour sauver aussi les animaux, et que ceux-ci ressuscitent après la mort, vont dans un enfer ou un paradis pour animaux, pour chaque espèce animale. Enfin, bref, il y a des textes vertigineux dans ce genre. Et au sein du christianisme, il y a toujours eu deux tendances. Séparer fortement l'être humain de l'animal a été longtemps la tendance dominante, ou bien croire à l'unité du monde vivant, c'est l'idée d'Aristote, mais c'est aussi l'idée de saint Paul, et le Christ donc serait venu aussi sauver les animaux. La présence du bœuf et de l'âne le prouve. Il y a également des débats, notamment à propos des images, pour savoir quel est l'animal le plus proche de l'enfant Jésus, dans les miniatures, dans les vitraux, plus tard dans la peinture. Et on s'est même essayé à faire des statistiques, moi-même j'en ai fait pour le Moyen-Âge. Le bœuf est plus fréquemment le plus proche de Jésus, et l'âne un peu moins fréquemment. Donc on en tire toutes sortes de conclusions.
Du côté donc des chrétiens, c'est seulement la nativité qui lie le bœuf à cette religion, ou est-ce qu'il y a d'autres choses ?
La Bible ne parle pas beaucoup des bovins, elle parle beaucoup plus des ovins, des caprins. C'est en doute un animal que l'Europe a mis en valeur très progressivement. Au Moyen-Âge, on a peu de documents qui concernent la vache ou le bœuf, que ce soit des textes ou des images. Ils font partie de la vie quotidienne, bien sûr, ces animaux-là, mais comme ils font partie de la vie quotidienne, on n'en parle pas tellement, et l'historien aurait bien du mal à écrire un livre « La vache au Moyen-Âge ». Il manquerait d'informations, même encore pour le XVIe et le XVIIe siècle.
Chaque vache a un nom, on les reconnaît bien, comme ça on cherche toujours un peu des jolis noms. Les vaches, en tout cas, on les connaît toutes par leur nom. Si on parle de la coquette ou de la colombe, on sait exactement de quelle vache il s'agit. Ici, il y a Marquise.
Pourquoi Marquise ?
Ben, on avait gardé un taureau une fois, qui venait de notre meilleure vache, et il s'appelait Marquis. Alors à son premier veau genisse qu'on a eu, on a mis Marquise. Et puis pourquoi on a mis Marquis au taureau, ben, on ne sait pas.
Et vous, quelle est celle que vous préférez ?
Moi j'aime bien la coquette et la princesse. Oui, parce que c'est les plus belles. Puis elles ont des belles têtes, des belles cornes, elles sont vraiment sympathiques. Elles portent bien les cloches, elles savent bien les faire aller quand elles vont au champ. Hein. C'est celles qui savent vraiment le mieux les faire aller. Elles marchent régulièrement, je ne pense pas, il faut quand même savoir, hein. Elles savent bien. Celle-ci, ici, quand elle va au champ, elle va toujours la première. Elle est devant le troupeau, elle les mène toutes, elle sait où elle va. Et puis, elle marche alors régulièrement, ça sonne bien, vraiment bien. C'est d'ailleurs à celle-là qu'on met toujours le poté. Oui, parce que elle sait bien, ça donne une bonne basse dans le troupeau.
On l'a dit, dans la fable politique d'Orwell, La ferme des animaux, les vaches sont très peu présentes. Mais le taureau, lui, est tout simplement absent du cadre. Il n'y en a pas dans la ferme d'Orwell. Cela n'est pas totalement incongru d'ailleurs, car la ferme n'a pas besoin d'un taureau au quotidien. Il est l'animal reproducteur, celui que l'on fait venir du dehors pour féconder les vaches, pas celui qui vit à demeure. Michel Pastoureau, est-ce que la symbolique du taureau l'empêche de faire partie du casting d'Orwell pour sa ferme des animaux, ou en tout cas, est-ce qu'on peut l'imaginer ?
Oui, parce que le taureau, c'est le plus sauvage des animaux domestiques. Donc, il est à cheval sur les deux catégories. Et souvent, il est plus sauvage que domestique, en quelque sorte, par son comportement. En outre, dans les traditions européennes, le christianisme a éliminé le taureau parce que, dans les premiers temps du christianisme, c'était l'animal vedette des religions rivales, et notamment du culte de Mithra, qui est une religion qui a le culte du soleil, mais qui sacrifie un taureau. Et le christianisme a eu beaucoup de mal à lutter contre la concurrence du mithraïsme. Il y est parvenu et a éliminé l'animal vedette de ce culte rejeté. Et donc, dans le christianisme, il n'y a pas de place pour le taureau. Il y en a une pour le bœuf, qui prend d'ailleurs un certain nombre d'aspects du taureau antique, en quelque sorte. Et donc, on ne sait pas qu'en faire. Et il va rester très, très, très discret, au moins jusqu'à la Renaissance, peut-être même jusqu'au XVIIIe siècle, le taureau européen.
Donc, c'est un animal déchu du fait de cette concurrence.
Oui, c'est un animal déchu, un animal qu'on a rejeté dans l'ombre. On en parle très peu. Et curieusement, il revient sur le devant de la scène avec un pape, le pape Alexandre VI Borgia, à l'extrême fin du XVe siècle, qui a un taureau dans ses armoiries familiales et qui, par là même, organise à Rome, une fois qu'il est monté sur le trône de Saint-Pierre, des spectacles taurins et retrouve un peu les formes de tauromachie de l'Antiquité, uniquement pour des raisons héraldiques et familiales. Or, ce taureau familial, pour cette famille Borgia, qui est d'origine espagnole, c'est un jeu de mots entre le nom de la famille et un nom local du taureau de la région, dans la région d'où cette famille vient.
En fait, on a l'impression que dans cette famille des bovins, la vache et le taureau sont quasiment les opposés, puisque, on l'a dit, la vache est bienveillante, alors que le taureau est vu comme lubrique, diabolique, satanique. Il est associé au sang aussi, Michel Pastoureau.
Oui, c'est un cas fréquent dans la symbolique des animaux domestiques et aussi dans la symbolique des animaux sauvages. La femelle est souvent plus valorisée que le mâle. Hein. Si on prend les ovins, la brebis, c'est complètement christologique. Le bélier, c'est assez fortement sexuel. Chez les caprins, c'est pire encore. La chèvre, ça va. Le bouc, c'est complètement diabolique. Mais même chose du côté des animaux sauvages. On a des sangliers, par exemple, qui sont redoutables et dont il faut se méfier, qui sont très dangereux. La laie, en revanche, qu'il défend courageusement ses petits, comme le fait l'ours également, sont plutôt prises en bonne part.
Le taureau semble rivé à son destin de numéro 2. Il ne sera plus jamais le roi des animaux qu'il a pu être dans l'Antiquité ou du temps des peintures rupestres. La transition est facile pour vous faire écouter l'archive d'un autre éternel numéro 2, le cycliste Raymond Poulidor. Vous allez entendre que ça n'est pas aussi tiré par les cheveux que cela en a l'air. Celui qui n'a jamais enfilé le maillot jaune a pourtant failli remporter le Tour de France. C'est même arrivé à plusieurs reprises, puisqu'il a 3 fois été numéro 2 et 5 fois numéro 3. La rivalité avec l'autre grand coureur français, Jacques Anquetil, qui a lui gagné le Tour, est devenue légendaire. Et le plus étonnant, c'est qu'on se souvient davantage de Poulidor le deuxième que d'Anquetil le premier. Il y a même des chances pour que, quand on parle d'Anquetil aujourd'hui, c'est quand on évoque Poulidor. Fils de métayer, Raymond Poulidor avait grandi à la ferme. Et Poupou, comme l'avaient surnommé les Français, conservait des souvenirs émus de sa jeunesse entourée de vaches. Il l'avait raconté à Yves Desautards en janvier 1989.
Lorsque mon père, nous habitions à la Mazière, lorsqu'il y avait la foire à Sauvia, mon père aller vendre soit du bétail, soit des cochons à la foire, et quelquefois, évidemment, la foire se prolongeait, la vente avait été bonne, et alors mon père, bon, une fois par mois, c'était pas trop, prolonger un peu son séjour, soit au bistrot, soit avec des copains au bout d'une bonne, autour d'une bonne table. Et le soir, s'il n'avait pas eu les vaches pour le ramener à la maison, lui aurait été incapable de se diriger. Alors il montait de ce qu'on appelait le tombereau, il montait dans le tombereau et il dormait jusqu'à la maison. Et l'attelage déposait mon père devant la porte à 5 ou 6 heures de l'après-midi, alors que personne ne l'attendait, on ne savait pas où il était. Et les vaches attendaient tranquillement qu'on les délie et qu'on leur donne à boire et à manger et qu'on décharge papa.
Michel Pastoureau, que vous inspire cette archive ?
Eh bien, en tant qu'historien du sport, elle me dit beaucoup de choses, notamment qu'à l'époque de Poulidor encore, le Tour de France est une compétition qui traverse les campagnes, bien sûr, mais qui est surtout admirée par la France rurale. C'est la dernière fois. Je crois qu'il prend sa retraite il participe au Tour 74, en 75 il est encore là, puis ça va être fini. On va entrer dans une nouvelle période. Il y a aussi l'idée très intéressante, dont on parle jamais, mais qui, pour l'historien, est importante, parce qu'elle renvoie à des pratiques anciennes, notamment médiévales. Gagner, ça n'est pas tellement admirable, souvent. C'est même, quand on gagne trop souvent, ça tourne au ridicule. Et je crois que Anquetil en a été victime. Tandis que finir plusieurs fois deuxième ou même troisième, ça, c'est une performance et ça crée la sympathie. Hein. Et dans les tournois médiévaux, c'est un peu la même chose. Dans les romans de chevalerie, Lancelot, qui gagne tout le temps, qui est le meilleur chevalier du monde, il est ridicule, il n'y a pas d'autre mot. C'est une dimension que le lectorat moderne ne perçoit pas toujours. Bref, Poulidor, c'est vraiment une France rurale qui est en train de disparaître, et avec lui, une certaine image du Tour de France.
Mais est-ce qu'on n'assimile pas, de façon plus ou moins consciente, Poulidor avec les qualités de persévérance, de modestie, qu'on va prêter aux éleveurs, voire même qu'on pourrait prêter à la vache et aux autres bovins?
Oui, d'autant que Poulidor lui-même a cultivé cette image. On disait qu'il était près de ses sous, et il cultivait cette image, économe, comme le paysan qui préfère ne pas trop dépenser. Il ne disait pas toujours ce qu'il pensait, il était souvent hésitant ou taciturne. En fait, il pensait très fort certaines choses, mais il ne les disait pas. Oui, c'est une certaine image qu'il s'est construite et qu'on a construite à côté de lui et qui lui convenait très bien.
En tout cas, dans la fable d'Orwell, on peut dire que la vache, c'est aussi l'éternel numéro 2.
La vache est l'éternel numéro 2, comme Poulidor est l'éternel numéro 2.
Si la vache et les bovins en général sont les grands oubliés de la ferme des animaux d'Orwell, le cochon en est la star incontestable. Mais les cochons se seraient peut-être passés de tant de publicité, comme nous allons le voir dans l'épisode qui suit, un épisode où nous apprendrons qu'il y a une raison particulière pour laquelle Orwell a choisi cet animal-là pour incarner la caste des tyrans. Une raison qui tient peut-être au fait que dans certaines fermes, on appelait les cochons « monsieur ».